RFI, il est 14h10 à Paris, 8h10 à Port-au-Prince. Et on retrouve Céline Pellarin pour le journal d'Haïti et des Amériques. Bonjour Céline.
Bonjour Pauline Glaise, bonjour à toutes et à tous. Aux États-Unis, il y a une épidémie silencieuse mais dévastatrice, les overdoses d'héroïne et de tout autre opiacé. Un fléau qui fait même reculer au niveau national l'espérance de vie des Américains. Ce n'était pas arrivé depuis 1963. Vous entendrez le reportage d'Anne Corpé en Virginie-Occidentale, l'état le plus touché par ces overdoses. On restera aux États-Unis avec la revue de presse d'Arim Lipol. Bonjour Arim.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Donald Trump discute immigration avec les sénateurs et puis on verra que la décision de supprimer le visa de protection temporaire pour les Salvadoriens pourrait avoir des conséquences pour le voisin canadien. La presse au Pérou se penche sur le remaniement opéré par le président Kuczynski, qu'il décrit lui-même comme le cabinet ministériel de la réconciliation, alors que le dirigeant reste au cœur de plusieurs polémiques. Enfin, nous irons en Haïti à la rencontre d'une humoriste au sketch grinçant et hilarant qui a de grandes ambitions pour son art dans son pays. Pour la deuxième année consécutive, aux États-Unis, l'espérance de vie est en baisse. Cela n'était pas arrivé depuis 1963. Et ce qui provoque cette baisse de l'espérance de vie des Américains, c'est une épidémie d'overdose à l'héroïne et aux médicaments opiacés. Elle ravage le pays. C'est même devenu pour les moins de 55 ans la première cause de mortalité. Anne Corpé s'est rendue à Martinsburg, dans une ville de Virginie-Occidentale, qui est donc l'état le plus touché par cette épidémie d'overdose.
Andrew Garcia, policier, regarde d'un œil blasé un convoi d'ambulances et de voitures de police emprunter la grande rue de Martinsburg à vive allure. Andrew Garcia patrouille dans cette ville depuis 10 ans et il a assisté à l'arrivée massive de l'héroïne.
J'ai vu l'héroïne augmenter de façon exponentielle ces 5-6 dernières années. Quand j'ai commencé il y a 10 ans, c'était rare de tomber sur quelqu'un en possession d'héroïne. Maintenant, on a l'impression que c'est la norme. Cela continue d'augmenter. Selon les statistiques, le nombre d'overdoses a encore grimpé depuis l'année dernière. Une chose importante, c'est que beaucoup de gens deviennent accros à l'héroïne après avoir pris des médicaments sur ordonnance. La Virginie occidentale est l'état où il y a le plus d'abus de prescription de médicaments opiacés. Donc, quand ils réalisent que l'héroïne est moins chère, les gens lâchent naturellement leurs pilules pour se tourner vers l'héroïne. It was kind of a natural transition from the pills to the heroin.
Tina Stride nous accueille dans sa petite maison en bois du centre-ville. Son fils a 26 ans et est toxicomane. Il tente de s'en sortir, il a fait plusieurs cures, mais a rechuté à chaque fois. Il venait d'obtenir son diplôme d'électricien quand s'est enclenchée la mécanique infernale.
Mon fils a eu une opération au coude. Il est allé voir un médecin spécialisé pour gérer sa douleur qui lui a prescrit toutes sortes de médicaments opiacés. Mon fils est devenu dépendant. Cela s'est déclenché dans son cerveau. Donc le docteur a arrêté ses ordonnances. Il lui a dit « C'est fini, je ne peux plus rien pour toi ». Mon fils a commencé à acheter dans la rue. Il est allé dans la rue et a trouvé des dealers pour lui vendre ses pilules. Mais elles sont chères, alors le dealer lui a dit « Hey, j'ai un truc moins cher et encore mieux qui va te procurer plus d'effets. » Donc mon fils s'est mis à sniffer de l'héroïne. Quand il est venu me demander de l'aide, il m'a dit « Maman, ne t'inquiète pas, je ne me l'injecte pas, je la sniffe seulement. » Mais la dernière fois qu'il est venu me voir, il m'a dit « Maman, ça ne va pas, je me shoote maintenant. »
Jeff Agnew est ambulancier. Il patiente dans les locaux des services d'urgence en attendant la prochaine alerte. Âgé de 27 ans, il a grandi ici et a dû secourir à plusieurs reprises d'anciens camarades du lycée. Sa génération est particulièrement touché.
7 ou 8 copains avec qui je sortais régulièrement sont morts, donc je suis content de ne pas avoir essayé l'héroïne. J'aurais pu me mettre à l'héroïne, je n'étais pas engagé sur un bon chemin, mais je me suis tiré des ennuis et je ne sais pas ce que je serais devenu sinon. J'y pense beaucoup, j'ai perdu de nombreux amis à cause de ça, de nombreux amis. Voir ces gens avec qui j'étais ami, et c'était des gens bien, maintenant ils sont complètement différents, ils ont beaucoup changé. La drogue consume leur vie. C'est effrayant.
They've changed a lot. It just consumes their life. It's scary.
Mais Jeff doit déjà repartir au volant de son ambulance pour une nouvelle urgence. Elle se multiplie depuis que l'héroïne est coupée avec du fentanyl, un produit 50 à 100 fois plus toxique que la drogue elle-même. Anne Corpé, Martinsburg, RFI.
Et on va rester aux États-Unis pour votre revue de presse. Arim Lipold, Washington a vu hier un Donald Trump apaisée.
Ah oui, le président est en pleine négociation pour la réforme de l'immigration. Il a besoin de soutien de ses troupes, mais aussi celui de l'opposition. Et du coup, il s'est montré conciliant lors d'une réunion à la Maison-Blanche avec des parlementaires des deux partis.
Avoir les démocrates et les républicains est absolument vital parce que cela doit être une loi bipartisane. Cela devrait être une loi de l'amour. Oui, une loi de l'amour et nous pouvons le faire.
L'objectif de la réunion était non pas de parler d'amour, mais d'aborder le sort des Dreamers, ces jeunes sans-papiers qui ont l'autorisation de travailler et d'étudier légalement sur le sol américain.
Oui, le président Trump avait abrogé, souvenez-vous, ce programme mis en place par son prédécesseur Barack Obama. Mais quelques heures après la réunion, un juge de San Francisco avait suspendu cette abrogation. C'est à la une du New York Times. Le juge William Alsop a en effet ordonné au gouvernement d'appliquer intégralement le programme appelé DACA, Deferred Action for Childhood Arrival, et ceci sur l'ensemble du territoire américain en attendant un jugement définitif. D'après le New York Times, l'administration Trump pourrait rapidement faire appel de la décision du juge.
Et la presse Arim Lipol s'intéresse non seulement au fond de cette affaire, mais aussi à la manière dont le président a abordé le sujet hier à la Maison-Blanche.
Et oui, chose inédite, Donald Trump a invité la presse à assister aux discussions avec les parlementaires sur l'immigration. Comme on pouvait l'entendre tout à l'heure, l'objectif était clair. Selon le Washington Post, il s'agissait de montrer que, contrairement aux rumeurs qui courent dans la capitale, alimentées notamment par la publication du livre Feu et Fureur, le président est bien en possession de toutes ses facultés mentales.
Il est donc question d'immigration concernant les Dreamers, mais cette immigration concerne aussi 200 000 Salvadoriens qui vivent aux États-Unis et qui pourraient devoir quitter ce pays d'ici 18 mois. Après les Nicaraguayens, les Haïtiens, le président américain a mis fin au programme de protection temporaire de ces immigrants salvadoriens. La fin de ce nouveau TPS inquiète le Canada. En cause, l'arrivée possible à la frontière de réfugiés salvadoriens en quête d'une nouvelle terre d'asile. Les précisions à Québec de Pascal Gricola.
Selon le ministre de l'Immigration, Hamed Hussein, le Canada a tiré l'expérience de la situation au poste frontière près de Montréal cet été. En effet, durant 2 ou 3 mois, des milliers d'Haïtiens ont franchi la douane par un chemin détourné car ils craignaient de se faire déporter des États-Unis vers leur pays d'origine. Désormais, le gouvernement canadien mène une campagne de marketing sur les médias sociaux pour désamorcer les fausses rumeurs sur sa politique d'immigration. Le but? Expliquer aux candidats au départ que le Canada n'accepte pas tout le monde et qu'il faut respecter de nombreux critères pour pouvoir s'établir dans ce pays. Plusieurs députés et le ministre de l'Immigration ont d'ailleurs rencontré les communautés latino ces derniers mois aux États-Unis. Pablo Rodriguez, un député canadien hispanophone, doit se rendre dimanche en Californie où habitent de nombreux Salvadoriens. Il veut s'assurer qu'ils comprennent bien les règles d'immigration avant de quitter leur travail ou de vendre leur maison pour s'établir au Canada. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
Et du Canada au Pérou, le président Pedro Pablo Kuczynski a remanié son gouvernement.
Et PPK, comme le surnomment les Péruviens, a été obligé de reconstituer son cabinet après la démission de plusieurs ministres. Et il protestait en fait contre sa décision de gracier l'ancien chef d'État Alberto Fujimori. 9 nouveaux ministres, dont 7 femmes, ont fait leur entrée au gouvernement. Pedro Pablo Kuczynski présente cette nouvelle équipe comme celle de la réconciliation et il promet de s'attaquer aux vrais problèmes des Péruviens.
Malgré nos divergences, je demande à tous de se rassembler pour combattre les vrais problèmes de notre pays. La pauvreté, l'inégalité d'accès aux services de l'État et à l'emploi, l'insécurité et la corruption.
Et donc, comment réagit la presse péruvienne, Arim?
Eh bien, le journal El Comercio, par exemple, critique déjà ce nouveau gouvernement. C'est un cabinet vide, écrit le quotidien, estimant qu'il ne sera pas capable de tenir les promesses électorales du président comme celles qui concernent justement la lutte contre la corruption. Rappelons que Kuczynski lui-même est mis en cause dans le scandale Odebrecht. Plusieurs entreprises liées au chef de l'État ont reçu des des pots de vin de la part de l'entreprise de BTP brésilienne, avait rapporté le journal El Comercio en décembre dernier.
Justement, Rémy Paul, on va partir au Brésil où le président Temer lui aussi remanie son gouvernement, mais eh bien, les choses ne se passent pas comme il l'avait prévu.
Oui, la justice a de nouveau bloqué hier la prise de fonction de la nouvelle ministre du Travail. Le gouvernement avait déposé un recours pour permettre à Cristiane Brasil de prendre ses fonctions, mais ce recours a été rejeté à deux reprises d'après le site d'information Globo. Tous les préparatifs pour la cérémonie prévue hier avaient été maintenus dans l'espoir que la cour d'appel se prononce en faveur du gouvernement. Les invités avaient même commencé à affluer en début d'après-midi au palais présidentiel de Planalto à Brasilia, mais la cérémonie a finalement été annulée.
Malgré cet optimisme. Mais c'est donc une affaire embarrassante pour le président Michel Temer.
Oui, parce qu'il avait nommé Cristiane Brasil sur la recommandation du père de cette dernière, Roberto Jefferson. C'est un ancien député, mais qui reste très influent à Brasilia. Quelques jours plus tard, la chaîne TV Globo révélait que la nouvelle ministre avait été condamnée pour des infractions au droit du travail. Elle faisait travailler son chauffeur 19 heures par jour. Toujours d'après au Globo, le président est coincé maintenant car il ne peut pas lâcher Cristiane Brasil car il risquerait justement de se fâcher avec son père, vous l'avez compris. Et selon le journal Correio Brasiliense, Michel Temer n'a pas d'autre choix que de tenter un ultime recours, cette fois-ci devant la Cour suprême.
Beaucoup de politique et beaucoup de famille au Brésil. La revue de presse était signée à Rémy Paul et elle est à retrouver évidemment sur le site internet de RFI.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
On va faire la rencontre aujourd'hui avec la star de l'humour féminin et féministe en Haïti. Elle s'appelle Gaëlle Bien-Aimée. Elle vient tout juste de fêter ses 30 ans. Elle se prépare à ouvrir son école de théâtre car elle rêve comme elle. Elle dit qu'il est en Haïti une factory d'humoristes. Comme d'habitude, les sketchs de son nouveau spectacle « Un douce, un chaud », nos auditeurs haïtiens comprendront le jeu de mots qui n'est malheureusement pas vraiment traduisible. Eh bien, ces sketchs appuient là où ça fait mal. Et au micro d'Amélie Baron, Gaëlle Bien-Aimée assume sa volonté de ne pas vouloir faire de concessions.
Dans tes spectacles, tu n'hésites pas, on fait des blagues féministes sur le sexe. Oui. Est-ce que ça choque ou est-ce que c'est un soulagement pour le public ?
Le féminisme, le sexe, c'est ma tranche de tarte, comme diraient les Québécois. C'est là que je suis. Pas parce que j'aime ça. Bon, après, après, je suis féministe. Mais le sexe, c'est pour un peu embêter les gens, en fait, qui sont dans un tabou, dans un faux débat, une fausse pudeur. Et il y a les artistes qui ne passent pas partout. Et puis, je pense que les référents sont différents. Par exemple, si je joue devant des étudiants, c'est quelque chose. Si je joue devant des gens qui ont... Enfin, à Pétionville, tu vois, des gens qui ne vont pas descendre à la Focale me voir, il y a des choses qui se passent dans le quartier populaire. Il y a des gens du public qui vont comprendre, il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Et moi, je suis un peu des deux, là. Je ne suis pas... Je viens d'une classe moyenne, en décadence, je peux dire, parce que ça fait quelques années depuis que les gens de la classe moyenne se battent pour subsister. Donc, on divise le peuple haïtien en deux groupes, des gens qui peuvent et qui ne peuvent pas. C'est difficile d'être dans le juste milieu.
Est-ce qu'il y a alors un humour de classe ? Est-ce que tu adaptes tes spectacles en fonction de ton public ou est-ce que, au contraire, tu dis « vous me prenez tel quel ?»
Je pense que je vais devoir faire en sorte qu'on me prenne tel que je suis. Mon humour, il est engagé tout de suite. Il y a des gens qui viennent voir un spectacle qui n'ont pas envie que je parle de politique. Par exemple, mon dernier show, Un douce, un chaud, où j'avais un texte qui s'appelle Pilotage automatique, où je mitraillais les gens. C'était volontaire. Et je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts, qui ne veulent pas entendre ça, qui sont confortables. Haïti est dans une misère, Haïti c'est compliqué, la vie est difficile, mais qui sont confortables, qui peuvent manger, qui peuvent emmener leurs enfants à l'école, qui peuvent voyager, qui ne veulent pas entendre ça, qui ne veulent pas entendre la problématique et un femme-homme, même de genre en fait. Qui ne veulent pas entendre que là derrière chez toi, il y a la petite maison là, la dame n'a pas encore donné à manger à son enfant, alors que toi, quand tu te lèves, tu vois la maison. On côtoie la misère, c'est trop proche de moi. Je ne peux pas ne pas m'engager dans un humour féministe, dans un humour engagé, c'est impossible. Donc là, j'ai fait des expériences les mois passés où j'ai joué devant plein de public et je me suis dit, non, soit je suis la Manon Charlemagne de l'humour, soit je me tais, quoi. Parce que ça ne m'intéresse pas. D'être vraiment gentille. Non, je ne veux pas être gentille.
On ne va pas se mentir, la société haïtienne est quand même très patriarcale, macho. Est-ce qu'être une femme humoriste, c'est compliqué vis-à-vis des autres humoristes qui sont à 99% des hommes.
Il n'y a pas beaucoup d'humoristes, hommes et femmes. Ce qui est difficile, c'est pas faire de l'humour. Ce qui est difficile, c'est trouver un public pour délivrer ça. C'est trouver une production pour produire ça. On bosse, quoi. Maintenant, on attend des gens qui ont de l'argent pour investir. Et puis, des gens qui décident d'ouvrir le triomphe ou de faire une salle de spectacle. Parce que là, regarde, dans la cour de l'école, là, on a une petite scène. C'est quand même chouette, mais c'est pas couvert. Tout peut basculer s'il pleut. Déjà, là, au début du mois de janvier, là, on annonce la pluie. Les créateurs sont là. Mais après, si un mec qui a de l'argent décide d'investir et dans le riz et le pois, et d'investir aussi dans les arts, parce que j'ai l'impression que les gens ne savent pas que l'industrie culturelle peut produire, générer beaucoup d'argent. Et je ne pense pas qu'ils prennent conscience que ça n'existe pas et qu'il y a moyen d'en avoir une belle factory, quoi.
Aigle Bien-Aimée et son spectacle Indus un show où l'humour féministe est donc engagé, vous l'aurez compris. Elle répondait à notre correspondante à Port-au-Prince, Amélie Baron, Port-au-Prince où il est 8h25. Le journal de la première, c'est Benoît Ferrand qui est aux commandes. Bonjour Benoît.
Bonjour Céline.
En Martinique, la rivière du Prêcheur est désormais placée sous haute surveillance.
Oui, le Prêcheur, c'est une petite commune située sur le littoral nord-ouest de la Martinique, un peu plus haut que Saint-Pierre, autrement dit, juste en dessous de la tristement célèbre Montagne Pelée. Et les coulées de boue qui dévalent le lit de la rivière depuis le week-end dernier sont donc jugées inquiétantes par la population. Une réunion d'information est d'ailleurs prévue cet après-midi à la mairie du Prêcheur. Reportage sur place, Fabrice Théodose.
Je suis venue me promener au Prêcheur et j'ai découvert ce pont et les coulées de boue. Je trouve ça spectaculaire, ouais.
Vous imaginez ce qui a pu se passer ?
Non.
Je sors du Lamantin, je suis venue voir, c'est un événement, on dirait de la nature, mais c'est quelque chose à connaître, il faut voir.
Certains étaient là également, la veille, au moment de l'alerte.
Il fallait voir les vagues, c'était des grosses vagues successives qui passaient là, qui arrivaient, on voyait le spectacle. Mais on a peur, on a toujours peur pour respecter la nature.
Eh bien, il y a eu une descente d'eau extraordinaire.
Ah oui, c'est très impressionnant quand on voit ces vagues là-bas à 40 descendre comme ça.
Je reste perplexe, je me dis que ce sont des signes, qu'il faudrait qu'on fasse attention.
À quoi ?
Ben, à la montagne, elle n'est pas éteinte, elle est endormie. Donc tout ce qui est endormi se réveille un jour.
Rien à voir directement avec le volcan, nous explique Valérie Clouard, directrice de l'Observatoire du Monde des Cadets.
Ça peut arriver pendant les périodes éruptives, mais bien sûr ça arrive aussi naturellement pendant les périodes hors éruption, en repos complet comme actuellement la Pelée est. Et donc ça n'a aucun lien actuellement avec une quelconque signe d'activité de la montagne.
Avis à la population.
Pas de quoi s'inquiéter en tout cas pour l'instant. Le dispositif d'alerte actuel est viable et le phénomène est bien sous surveillance par les autorités. Un curage de la rivière doit être également effectué pour éviter les risques pour les riverains.
Venez nombreux. Merci.
Et ce n'est pas la première fois que la rivière du Prêcheur est envahie par des coulées de boue, des lahars, c'est leur nom scientifique. Pascal Safache est professeur de géographie à l'Université des Antilles. Il est au micro de Lauriane Virassami.
En fait, les versants de la Pelée étant très pentus, ils peuvent se déstabiliser à tout moment et c'est lors justement de ces glissements de terrain, de ces phases de déstabilisation, que ces matériaux particuliers, hein, ces mélanges de cendres, de boue, de terre, de roche, etc. se mélangent. Et lorsqu'on est dans des phases pluviométriques relativement marquées comme ces derniers jours, ben donc ces lahars se développent. Donc toutes les communes qui bordent la Pelée doivent être attentives au phénomène. Il y a eu déjà quelques coulées de boue, mais rien ne nous dit que l'ensemble des matériaux a été évacué et comme nous sommes encore dans une période assez pluvieuse, il y a de fortes chances qu'on ait encore des coulées de ce type dans les jours prochains.
Bon après-midi Céline, à demain.
Merci Benoît Ferrand et bonne journée à vous aussi. Le journal d'Haïti et des Amériques s'est terminé pour aujourd'hui. C'était Jonathan Brady à la réalisation. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. On va passer un petit peu de musique. Renata Jambeiro est à la fois chanteuse et actrice. Elle est considérée comme l'une des grandes voix de la nouvelle génération féminine de samba brésilienne. On écoute Dança de Oya.
Vem bailando, varrendo o mau tempo que o vento clareia. Eu era menina e já ouvia falar no canto que esquenta o couro e a mão pra dança de oiá. Eu era menina e já ouvia falar no canto que esquenta o couro e a mão pra dança de oiá. Tempo fechou no pó.
RFI, la sélection du mois.
MC Solar.
Je commande un sondage pour des vacances à Singapour. On vote à main levée. Il y a 5 filles contre et 5 gars pour.
Les oiseaux reviennent.
The Chanteuse.
Il faut essayer.